Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour Mathilde, je vous en prie,
merci.
Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire? Que le haut potentiel? Qu'est-ce qu'on appelle une famille recomposée?
Le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable.
C'est un biais culturel.
Ce stress chez les enfants s'exprime souvent par...
Autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir avec vous.
Donc c'est pas toujours clair pour les parents.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
Au bout du compte, ça peut se résumer comme une question. Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi le sens de tout ça?
Dans la première partie de cet épisode, j'ai reçu Karine, qui nous a partagé son vécu de son entrée dans ce temps de transition du milieu de vie et toutes les questions qui l'animent depuis. N'hésitez pas à aller écouter ce premier épisode si ce n'est pas déjà fait, car notre invité, Christophe Fauré, a déjà énormément déployé ce qui se joue à cette période-là de la vie. Et donc, dans cette deuxième partie, je reviens avec toi, Christophe Fauré, sur ce qui se joue plus spécifiquement dans cette période du milieu de la vie. Quel processus est en jeu? Quels en sont les objectifs? Pourquoi est-ce que c'est une période de plus grande fragilité psychique et un bouleversement identitaire? Et puis comment la parentalité impacte cette période de transition? Et inversement, peut-être, comment cette transformation identitaire impacte la parentalité? Bonjour Christophe.
Bonjour Mathilde.
Donc tu es psychiatre, psychothérapeute depuis plus de 25 ans, spécialiste du deuil, des périodes de transition de vie. Tu exerces actuellement en libéral à Paris et puis tu es l'auteur de nombreux ouvrages, alors notamment sur le deuil. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a, j'ai presque envie de dire, le best-seller qui est « Vivre le deuil au jour le jour ».
Oui, tout ça c'est chez Albin Michel,
tout
hein,
à
c'est
fait.
Important à préciser.
Il y a un roman que tu as écrit qui s'appelle « Mourir n'est pas te perdre
ouais. »,
qui est ton seul et unique roman.
Ouais.
Il y a ton dernier livre qui est « Cette vie est au-delà », une enquête sur la continuité de la conscience après la mort.
Sur la base de toutes les études scientifiques hein, qui existent au niveau des expériences de mort imminente, sur les vécus subjectifs de contact avec quelqu'un défunt. Enfin, vraiment, c'est une exploration de la conscience, de la continuité de la conscience après la mort. Et c'est passionnant. Et le roman, en fait, parle de ça. C'est un roman qui est connecté directement avec ce thème.
Et puis, il y a des livres sur le développement de soi, le couple, la vie après 40 ans, dont Maintenant ou jamais, la vie commence après 40 ans, toujours aux éditions Albin Michel. Un livre qui est issu, alors qui est d'ailleurs antérieur à ce livre Maintenant ou jamais, qui s'appelle S'aimer enfin, un chemin initiatique pour retrouver l'essentiel, qui est issu de ta propre expérience,
exactement,
de ton propre cheminement
exactement.
De transition de milieu de vie. Et puis des livres sur le couple, donc il y a Le couple brisé, de la rupture à la reconstruction de soi, Est-ce que tu m'aimes encore, Ensemble mais seul, apprivoiser le sentiment de solitude dans le couple, voilà, pour en citer quelques-uns. Donc on parle souvent de crise au moment de la quarantaine ou de la cinquantaine, ce qui laisse, en tout cas, même s'il ne s'agit peut-être pas, et tu vas nous le dire, d'un moment de crise, mais tu vas nous expliquer pourquoi tu parles de transition, mais en tout cas, ça dit bien qu'il se passe quand même quelque chose de particulier à
exactement,
ce moment-là.
Exactement, oui,
vie.
Oui, il se passe quelque chose de particulier, et en fait, hein, ce n'est pas moi qui le dis qu'il ne s'agit pas d'une crise. Il y a de nombreuses études anglo-saxonnes qui ont été menées justement après les années 80, où il y avait dans la littérature américaine, par exemple, l'idée d'une crise forcément qui survenait entre 40 et 50 ans. C'est plutôt une période, hein, plutôt qu'un moment particulier d'avoir 40 ans. C'est 40, 45, 50, 55 ans. C'est une période assez longue parce que c'est un processus naturel. Et des études ont montré vraiment que la vraie, vraie, de vraie crise de la quarantaine, cinquantaine, c'était que 8% des gens. Où vraiment on vrille, hein, on vrille avec vraiment des choses qui peuvent être très, très délétères pour soi-même et les autres. La plupart du temps, l'immense majorité des personnes vivent tant les hommes que les femmes, hein, c'est vraiment universel, prévisible et naturel qu'il y ait, dans ce temps de l'existence, une transition qui est à l'image, sans que ce soit exactement une autre adolescence, mais qui est à l'image complète de la transition entre l'enfance et l'état de jeune adulte qui est l'adolescence. Hein, où il y a les mêmes processus d'une certaine manière qui sont mis en jeu. C'est juste une étape naturelle de maturation de l'être humain. Hein. Et donc, parler de crise est un peu... D'abord, c'est faux, hein, ça ne correspond à rien, et ça met une étiquette négative sur quelque chose qui est en fait un processus qui, quand il est abordé de façon lucide, consciente, est extrêmement bénéfique parce qu'on a quelque chose à travailler. Parce que oui, Mathilde, on a quelque chose à travailler. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ce moment est particulier ? C'est un moment de notre existence où beaucoup de facettes de notre être sont mises en résonance, en questionnement, en même temps. C'est le côté en même temps qui est important. Le corps...
Peut-être avant de détailler ce que tu viens de dire, ça m'évoque ce que tu disais dans le premier épisode à Karine. Il ne s'agit pas d'une révolution, mais d'une évolution.
D'une évolution. C'est une évolution sans en avoir l'air. L'air de révolution.
Mais quand on dit crise, il y a aussi cette idée que ça serait un moment douloureux, de souffrance.
Non, alors ce ne l'est pas. Hein. C'est un moment qui est confrontant. Parfois, il y a certaines choses qui sont confrontantes, mais ce n'est pas douloureux. C'est quelque chose qui est nécessaire. Hein. Tout comme il est douloureux pour une chenille de se transformer en papillon, hein, la chenille, elle va se mettre dans sa chrysalide et elle va devenir papillon. Pour elle, c'est pas douloureux, c'est le processus naturel pour passer d'un état de chenille à un état de papillon qui semble être complètement différent, mais c'est la même entité, le même être vivant qui est là. C'est ça au bout du compte. C'est sûrement difficile de déployer ses ailes alors qu'on a été dans une chrysalide enfermée pendant quelques semaines dans le noir, mais c'est de l'ordre du naturel. Hein. Et plus on l'accompagne en conscience, plus ça se fait avec douceur. Même si parfois ça ne se fait pas avec douceur, mais il n'y a pas d'erreur, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas un bug dans le système, il n'y a pas quelque chose qui ne devrait pas être. Pour certaines personnes qui ont des structures de vie peut-être trop rigides, ça peut se fissurer et ça peut faire un petit peu mal, un petit peu... Il n'y a absolument rien d'inquiétant, rien du tout.
On parle aussi de crise, mais ça peut être un moment où on se sépare, on divorce, où il peut y avoir des deuils. Est-ce que du coup, ces événements vont être des catalyseurs, des révélateurs finalement de ce processus ?
Exactement. C'est très important que tu mentionnes ça parce que les gens disent « je divorce, ah c'est ma crise de la quarantaine, de la cinquantaine ». Non, on se rend compte que le processus, lui, va se déployer de toute façon. Mais il y a parfois des accélérateurs. Il y a parfois des événements qui surviennent. Peut-être un petit souci de santé, ça peut être un souci professionnel, ça peut être un chômage, ça peut être une rupture, ou ça peut être un conflit, ou ça peut être même des choses heureuses. L'arrivée d'un enfant alors qu'on a 50 ans, Alex, c'était pas prévu d'avoir 50 ans pour les hommes qui veulent refaire une autre famille. Ça peut être tant dans le positif que dans le négatif, quelque chose qui va rebattre les cartes.
Comment elle se manifeste, cette transition ou l'entrée de cette transition ? Alors, Karine nous en a parlé avec le début de questionnement sur le sens dans son travail, notamment, des petites questions, des petites inquiétudes au niveau de sa santé qui l'ont amené à initier finalement ce processus. Mais quelle forme il prend ?
C'est difficile de répondre tout de suite à ta question. Il faut d'abord faire un pas en arrière pour vraiment comprendre. On va sentir que quelque chose bouge, mais il faut d'abord comprendre quoi bouge. Hein? Et le quoi bouge, le concept dont on va parler ensemble là, c'est ce qu'on appelle le processus d'individuation qui a été formalisé par le psychanalyste suisse Carl Jung, c'était un copain de Freud, puis après ils se sont fâchés, mais en tout cas qui a élaboré il y a une centaine d'années ce concept qui est très très valide et très pertinent pour nous encore actuellement. Et il y a plusieurs étapes, on ne va pas détailler comme un saucisson les différentes étapes, mais il y a une première étape qui est importante, en fait qui concerne la première moitié de notre vie, qu'il appelle la phase d'accommodation. Et c'est quoi la phase d'accommodation ? La phase d'accommodation, c'est nous naissons, nous sommes petits enfants, et nous sommes, je dirais, et c'est pas négatif de le formuler ainsi, formatés par notre éducation, par notre culture, par notre société, par les règles qui régissent une société pour que ça fonctionne bien. Et on apprend intuitivement et explicitement comment je dois être au monde pour en être aimé ? comment je dois être au monde pour avoir ma place. On est façonné d'une certaine manière. Jung lui donne un mot, on fabrique notre persona. Et persona, c'est un mot grec qui désigne le masque que les acteurs grecs de la Grèce antique portaient lors des représentations pour signifier aux spectateurs quel personnage ils étaient en train d'incarner. Donc nous, on développe notre persona, mais il y a le pendant de la persona. Quand je développe ma persona, si je choisis d'être A, je ne choisis pas d'être B. Si, par exemple, je suis dans une famille d'ingénieurs où il faut à tout prix être bon en maths, faire des grandes écoles, et puis après aller dans des grandes écoles de commerce ou HEC, et qu'en moi, j'ai une aspiration artistique, eh bien, pour trouver ma place dans cette famille-là, je vais développer le choix A, qui est d'être très scientifique.
En mettant de plus, côté, finalement, voilà, cette essence et cet
exactement,
attrait pour l'artistique.
Ce côté artistique, non, je le mets de côté, et selon Jung, il ne disparaît pas, il passe dans l'inconscient de Jung, et lui, il appelle ça l'ombre. Et ce n'est pas forcément négatif. L'ombre, c'est le lieu où il y a, sont refoulées toutes les choses négatives, des impulsions négatives de violence et toutes les choses qui ne sont pas dans les règles qu'on doit adopter pour exister harmonieusement dans une société. Donc là, c'est un premier aspect de l'ombre. Mais le deuxième aspect de l'ombre, qui n'est pas négatif du tout, c'est toute la vie qu'on ne vit pas. Tout ce qu'on ne choisit pas par choix ou par nécessité pour pouvoir exister dans le monde de façon harmonieuse.
Est-ce qu'on peut imaginer ce dont nous a témoigné Karine, finalement, où elle disait aujourd'hui, je me mets à la peinture.
Exactement. C'est pour
on
ça,
peut
ça,
imaginer, ouais, elle ne ouais. nous l'a pas dit, mais on ouais, peut oui. imaginer on que peut finalement, imaginer, c'était voilà. des parts d'ombre, des choses
voilà.
qui ont pu être présentes
voilà,
et qu'elle
tout à fait,
a mis hein. de côté.
Donc l'ombre, c'est ce qui n'est pas dans la lumière au bout du compte, hein, ce qu'on n'a pas mis dans la lumière parce que, j'insiste bien, c'est positif quand même, hein, c'est, on n'a pas mis ça dans la lumière parce qu'on a estimé qu'en fonction de notre environnement, notre société, des injonctions de l'école, de nos parents, des gens qui étaient importants pour nous, on s'est dit, ok, ben, je ne peux pas faire vivre ça. Dans le couple, par exemple, on peut avoir choisir un compagnon ou une compagne qui correspond aux critères que notre famille attend de nous, telle famille, telle éducation, tel milieu, et on va vers ça, et on se rend compte, au bout du compte, qu'on a fait un choix qui est beaucoup plus dicté par ce qu'on attend de nous plutôt que ce que on veut soi-même. Et qu'est-ce qui se passe donc pour répondre à ta question
étape,
voilà,
du coup,
la deuxième
du
étape,
processus.
C'est la deuxième ou troisième étape. C'est, c'est à peu près tout ça mélangé pour pas entrer trop dans le détail et nous perdre dans trop de détails. C'est que à ce moment-là, autour de la quarantaine, il y a un mouvement naturel, Mathilde, c'est important de le préciser, un mouvement naturel dont on ne connaît pas véritablement les tenants aboutissants, on peut que le constater, qui est quelque chose qui est en train de remettre en question, très subtilement au début, par petites touches, très, et pas forcément synchrone non plus avec son compagnon ou sa compagne, comme on a vu avec Karine la dernière fois, qui commence à sentir que cette persona qui nous a permis d'exister jusque-là dans le monde devient peut-être un petit peu serré, un petit peu un carcan, un petit peu limitant par rapport à ce que on sent en soi émerger. Il y a donc une fragilisation progressive, pas forcément traumatique, hein, mais quelque chose qui fonctionne moins bien, un peu plus serré, engoncé dans cette persona. Et en même temps, parce que c'est un mouvement concomitant, il y a plus de place pour l'émergence de l'ombre, à savoir toute cette vie, entre guillemets, non vécue, qui commence à revendiquer l'envie d'être vécue. Puisqu'on a construit notre identité pendant cette première moitié de vie sur des choses stables, des rails très précises, comme ça commence à être mis un petit peu en résonance, on sait bien que dès qu'on touche à des éléments de notre identité, on se sent un petit peu plus vulnérable. Ce n'est pas une dépression. Hein, et pathologiser ceci, mettre des antidépresseurs qui vont étouffer ce processus et ce qu'il a de bénéfique à nous dire, n'est pas le bon chemin. Hein. C'est un psychiatre qui vous parle, hein, un gars qui prescrit les antidépresseurs. Et là, je vous dis, non, dans ce processus-là, quand c'est harmonieux, c'est une tonalité dépressive, mais ce n'est pas une
oui,
dépression.
Il y a des dépressions à l'adolescence, dans le processus de deuil, qui sont des dépressions
oui.
nécessaires, des passages nécessaires
exactement.
Et qui sont naturels, bons signes.
Exactement.
Qu'il ne faut pas annuler, éteindre avec des médicaments.
Tout à fait, mais accompagné justement par une réflexion et par un regard à l'intérieur de soi. Mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on retrouve peut-être une nostalgie de ce qui a été ou une nostalgie de ce qui n'a pas été. Et on se dit, mais c'est pas possible, je suis un enfant gâté, quoi. J'ai, je mets des guillemets,
tout pour être heureux.
Tout pour être heureux, et je suis là, gna 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 gna, je me sens nostalgique, je me sens triste, je me sens vulnérable, je me sens en perte de repère, et on peut avoir un regard très dur. Non, c'est un truc naturel qui se passe, prévisible. Il n'y a pas de bug, on n'est pas en train de devenir un enfant gâté. Vous allez dans n'importe quel pays, parce que ça a été étudié, dans n'importe quel pays, n'importe quelle culture, vous avez ça qui émerge. C'est vraiment universel. Mais comme on a tout, notamment au niveau matériel souvent, ou alors on a une famille qui fonctionne, des enfants, là,
oui, le coup, plus de confort.
Voilà, plus de confort. Et on se dit, mais pourquoi j'ai cette tristesse? Qu'est-ce qui me manque? Je fais une dépression. Or, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire simplement qu'en nous est en train de se mettre un processus de maturation, une deuxième étape, je dirais, après notre adolescence, qui fait quoi? Qui est en train de poser les bases de la deuxième moitié de notre existence, qui peut intrinsèquement être paradoxalement beaucoup plus qualitative en termes de sentiment d'accomplissement que la première partie. Pourquoi ? Parce que cette deuxième partie va davantage reposer sur des règles du jeu, des fondations qu'on va peut-être plus soi-même définir, qu'on va peut-être plus soi-même façonner, et qu'on va être beaucoup moins dans l'obligation de répondre aux demandes d'autrui pour exister au monde, mais qu'on va se dire, ok, je vais peut-être, on a quelque chose qui répond plus à mes besoins émergents, et peut-être sur la base de cela, je vais peut-être aborder la deuxième moitié de vie plus sereine.
Donc là, le but de ce processus d'individuation, c'est finalement de rendre plus libre, plus connecté à soi,
exactement.
Au soi. Ça m'évoque cette notion-là du soi.
Est-ce que tu
peux peut-être nous expliquer de quoi il s'agit?
Oui, le soi, c'est une autre notion de Jung. Le soi serait notre nature fondamentale. Quand nous naissons, notre soi n'est pas conscient de lui-même. Et notre soi va se définir sous la forme d'une persona, dans l'interface entre le soi inconscient et les injonctions du monde pour exister.
Donc le processus là d'individuation amène au soi conscient.
Intrinsèquement, ce processus est un processus spirituel. Bien sûr, il a des modalités pratiques de couple, de travail, relations aux parents, relations aux enfants, relations au corps, mais intrinsèquement, c'est une dimension spirituelle parce que au bout du compte, ça peut se résumer comme une question. Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi le sens de tout ça? C'est pas un appel extérieur, c'est un appel, une vocation intérieure de cette dimension profonde de notre être qui nous dit « viens vers moi ».
Du qui suis-je qui est ancré, connecté profondément
oui.
à ce qu'on est, à notre
oui.
être profond,
oui.
mais qui va s'ouvrir
exactement.
À l'extérieur.
Et c'est important que tu mentionnes ça parce que beaucoup de gens voient les jeunes générations, les tout jeunes, disent « ouais, mes parents maintenant », ou les vieux, ils sont centrés sur eux, leurs loisirs, c'est très égocentré. C'est possible, certaines personnes peuvent être dans un trip de très très égocentré. Mais en essence, quand on regarde, on se rend compte que ce mouvement de transition de milieu de vie à partir des 40, 45, fait qu'il y a presque une nécessité intérieure de revisiter en soi, revisiter comment je fonctionne, à quelle règle j'obéis sans même rendre compte que j'obéis à cette règle. Et une fois qu'on a fait une espèce d'audit, de transformation en douceur, on n'est pas dans la violence, hein, en douceur sur plusieurs années, en tâtonnant sûrement, hein, ou en se faisant accompagner un petit peu, on verra un petit peu peut-être comment ça peut se passer, mais on arrive à trouver un autre socle intérieur, eh bien, c'est sur ce socle qu'on s'appuie pour aller vers le monde. Alors, je propose souvent à mes patients de prendre plusieurs feuilles de papier, donc une feuille sur mon corps, une feuille sur la vie affective, une feuille sur relation à mes enfants, une feuille sur ma relation à mes parents, qui vieillissent. Et on peut parfois devenir tout doucement, s'il y a des problèmes de dégénérescence ou d'autres comme ça, le parent de son parent. Et c'est pas simple si avant on a une relation un peu compliquée avec son parent.
Mais je crois que dans ton livre, d'ailleurs, tu parles de la génération sandwich qui
exactement.
Est entre les enfants et des parents qui
des
vieillissent.
Parents, exactement.
Et on se retrouve finalement pris entre les deux.
Donc, relation avec mes parents. Une autre feuille sur la vie professionnelle. Une autre feuille qui est peut-être sur la vie personnelle. Quand je dis la vie personnelle, c'est tous les amis, mais c'est aussi ma vie
créative,
artistique, mes hobbies, les choses qui concernent vraiment, qui ne sont pas les autres secteurs. Une autre feuille qui peut être une dernière feuille qui est ma spiritualité. Je ne dis pas ma religiosité, mais ma spiritualité, c'est-à-dire ma dimension de transcendance. Ce qui en moi touche à cette dimension de transcendance ou de divin, peu importe le nom qu'on lui donne, mais pas nécessairement en référence à une religion. Et donc, tu as ces différentes feuilles. Et je propose pour chaque secteur de se poser quatre questions. La première question, c'est dans ce secteur, hein, quel qu'il soit, donc on a à peu près 6 ou 7 feuilles, qu'est-ce qui est bon et bien que je veux garder? Parce que dans le changement, il y a du non-changement. Il est précieux dans le changement de garder des choses qui sont bonnes et bien et qui fonctionnent bien. Donc, ça demande du discernement. Qu'est-ce qui est bon et bien que je vais conserver? Donc, grand 1, conserver, continuer. Grand 2, qu'est-ce qui est bon et bien dans ma vie quand je regarde soit mon corps, soit mon couple, hein, mais que j'ai besoin d'ajuster? C'est pas mal, c'est bon, ça correspond plus tout à fait là où j'en suis et comment j'ai besoin d'ajuster cela. C'est pas forcément simple, hein. Troisième question, qu'est-ce qu'il est nécessaire d'arrêter? De façon très basique, par exemple, si on prend la feuille « Mon corps », je vais arrêter de fumer. Et quatrième verbe, c'est quand je regarde les différents secteurs de ma vie, ça peut être « Qu'est-ce que je dois initier ?» C'est-à-dire « Qu'est-ce qui n'existe pas du tout ?» et que je dois initier, faire du sport où je peux initier un travail nouveau, initier une formation ou initier un autre mode de fonctionnement ou à répondre tout le temps oui quand on me demande des choses et apprendre, initier la démarche de dire non quand c'est juste pour soi de dire non alors que jusqu'à maintenant on a dit tout le temps oui alors que ce n'était pas forcément juste pour soi de dire oui tout le temps. Donc avec ces quatre verbes, continuer, ajuster, arrêter, initier, tu te poses la question en profondeur pour chacun de ces 6 ou 7 domaines de vie. Et au bout du compte, tu as matière à penser parce que 4 verbes fois, mettons, 6 ou 7 champs de vie, 4 fois 7, 28, 4 fois 6, 24, tu as entre 24 et 28 questions qui se pose à toi et qui donne matière à une vraie réflexion de fond. C'est pas juste un secteur. Tu vas tout interroger en même temps, au même moment. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a des corrélations entre ces différents secteurs. Donc, tu vois bien, de façon évidente quand on dit ça, que ce processus est d'autant plus mené qu'on se pose, qu'on prend du temps pour soi, qu'on se prend son ordinateur, qu'on prend un cahier, papier, crayon, qu'on pose les choses, parce que là, on devient intelligent, c'est-à-dire qu'on aborde en conscience les différents aspects de sa vie et on voit les correspondances qu'on ne voyait pas forcément. En fait, ce n'est pas un pulse éclaté, on se rend compte que tout ça, c'est assez cohérent et ça permet... Alors, on ne va pas forcément... Mettons qu'il y a 28 options, là, les 28 questions, qu'est-ce que dans mon corps je change, je continue, là. On va se faire confiance et intuitivement dire, où sont mes priorités là? Quelles sont mes peut-être dans les 6 mois ou peut-être dans l'année qui vient? Quels vont être les 6 ou 7 points comme une vraie promesse que je me fais à moi-même de m'atteler à ceci. C'est là où parfois ce temps de vie a besoin d'être accompagné, hein, psychologiquement, parce qu'on doit prendre parfois des décisions qui sont tellement difficiles que non accompagnées, on n'arrive pas à les prendre, on ne s'estime pas légitime, on se dit mais je fais du mal à maman. Non, je ne fais pas du mal à maman, je suis juste en un regard lucide qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une relation malsaine ou toxique, je dois arrêter ça. Bon, j'en fais un truc dramatique, hein, donc vous inquiétez pas, mais pour vous montrer que c'est que ça peut aller très loin et qu'on soit d'accord, hein, c'est pas une semaine qu'on va résoudre ça. Il y a une maturation. Comment changer la relation à mon garçon, par exemple, qui va partir de la maison? Comment faire évoluer la relation de mon couple dans tel ou tel secteur de notre relation? On n'a pas les réponses tout de suite. Mais le fait de mettre noir sur blanc ou de formuler la question, quand on formule nos questions, notre esprit les configure pour tendre vers différentes réponses. Et donc, ne serait-ce que se poser la question qu'il n'y a pas de réponse peut faire que ça mûrisse pendant quelques mois, 6 mois ou peut-être même 1 an et que quelque chose peut émerger en nous qui est un début de réponse ou une réponse clairement. Donc, vous voyez, ça prend du temps. Et plus on lui donne du temps, de l'espace, et plus on réunit les conditions de succès, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de choses.
Quand tu disais le fait de se poser, voilà, pour analyser finalement les choses, il y a une image dans ton livre, moi, qui m'a énormément marquée et intéressée, c'est l'image du verre d'eau dans lequel on met, alors on va dire que l'eau représente qui on est, et puis notre être
cristallin, transparent, voilà.
Et puis dedans, on met
la terre
qui représente nos pensées.
Nos pensées, nos tourments, nos croyances, nos jugements, voilà.
Et donc, quand on est tout le temps en action et donc on touille, l'eau vient se brouiller totalement.
Et tout le verre semble gris, ou terreux, l'ensemble.
Voilà, et une fois que finalement on arrête de tourner l'eau,
on pose le verre. On laisse décanter, donc on met du temps, on met de la temporalité. Et qu'est-ce qui se passe?
L'eau redevient cristalline et la terre tombe au fond du verre.
Et on voit clairement que dans ce tourment initial où on pensait qu'il n'y avait que du brun, eh bien, en fait, ce brun était intrinsèquement du lumineux, mais il a fallu le poser, le verre, laisser décanter. Et on distingue très clairement, par le fait de prendre du temps et de poser, ah oui, il y a de la terre. Et il y a une partie très claire d'eau qui est là. C'est le fameux soi, S majuscule, dont on parlait. Et après, on se dit, OK, comment je fais pour pas retouiller à nouveau? Ça demande à être proactivement mené.
Oui, c'est une autre chose qui m'est venue en t'écoutant. C'est vraiment la dimension de la responsabilité individuelle et aussi de l'action. Et Karine nous l'a dit, finalement, elle teste des choses. Oui. Elle s'autorise à faire, à être dans l'action.
Oui, oui.
À se remettre à la peinture, à s'y mettre, d'ailleurs, c'était pas se remettre, à se mettre à la peinture, à tester des choses qui vont fonctionner, pas fonctionner, peu importe, mais à faire, en tout cas.
À tester. Carl Jung disait très clairement, le processus se fait de toute façon. Vraiment, ce processus, comme l'adolescence, ça se fait, elle n'est pas arrêtée, ça se fait. Mais on peut l'accompagner. Et plus on va prendre la responsabilité de se dire, OK, je prends du temps pour réfléchir aux différents secteurs de ma vie. Je prends le temps de se poser ces 4 questions. Je prends le temps de voir le comment j'atteins ces 4, 5, 6, 7, 8 objectifs que je me fixe sur peut-être ces 6 mois ou cette année. Eh bien, tout ça permet véritablement de faire une espèce de plan de vie. Il peut y avoir des regrets. Il peut y avoir des regrets. J'ai beaucoup travaillé en soins palliatifs, donc dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, donc côtoyer vraiment très, 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 pendant des années, des gens en fin de vie. Et les gens en fin de vie, quand on parle avec elles, souvent c'est malheureusement des regrets. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû donner plus de moi. J'aurais dû donner plus de place à ce que j'avais dans mon cœur. J'ai passé mon temps à répondre aux attentes des autres et en étouffant sans cesse mes attentes en moi. On est d'accord, c'est toujours pas un truc égoïste, mais c'est juste de respect de la personne qu'on est. C'est pas moi, mais c'est juste que il est légitime, quand j'ai une aspiration de cœur, de fond, de la faire exister un petit peu. Et tellement de gens n'ont pas su le faire ou n'ont pas voulu le faire, parce que, ne soyons pas naïfs, il y a une composante de flemme, de paresse. Ça demande une certaine énergie, mais les gains que l'on tire sont tellement gigantesques. Mais beaucoup d'entre nous, malheureusement, sont un petit peu dans la flemme. On laisse couler. Et on laisse couler, et c'est pas négatif, mais en regardant trop Netflix, par exemple, pour pas penser. Et justement, parfois, parce que tout ça monte en soi et génère une espèce d'angoisse diffuse, on a cette forte tendance à anesthésier avec les choses de l'extérieur, les jeux vidéo. J'ai rien contre, c'est pas ça. Mais quand ça prend la fonction d'anesthésiant, les jeux vidéo, les Netflix, les trucs, on s'étourdit avec les choses extérieures, alors même que l'on sent que quelque chose à l'intérieur essaye, quelque chose de très sain, de très bénéfique, de très lumineux en nous, essaye de se faire entendre et on l'étouffe, et parfois même malheureusement avec des antidépresseurs ou des anxiolytiques, alors que non, on écoute, qu'est-ce que tu me dis? C'est peut-être pas agréable ce que tu me dis, mais c'est tellement bénéfique si j'écoute ce que tu as à me dire et si tu me montres des directions que je dois entreprendre.
Ouais, ça demande une forme de courage.
Ouais, avec la définition du mot courage qui est l'action en dépit de la peur au ventre. J'ai peur, je sais que peut-être cette relation de couple ne fonctionne plus. Elle a peut-être fonctionné très bien, on a peut-être des beaux enfants, 17, 20 ans, et ils partent maintenant dans leur vie. Puis je me rends compte que notre couple conjugal, dans tout ça, il a pu exister depuis longtemps, ils s'en vont. Et je pourrais rester, être, comme me disait une patiente, « Oh, mon mari et moi, nous sommes un couple patrimonial. » Mais une autre personne peut me dire « Ok, j'ai 50 ans, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans. Il y a encore du temps devant moi. C'est vrai que notre espérance de vie maintenant rend possible vraiment une deuxième très belle moitié de vie. Et certaines personnes peuvent se dire, on a fait le plus qu'on pouvait dans cette relation. C'était une belle relation, mais maintenant, là où j'en suis dans ma vie, et là où il en est, ou là où elle en est dans sa vie, on n'est plus raccord. Est-ce qu'on va avoir le courage de se le dire ? De se séparer, mais j'insiste, hein, attendez, dans ce que je suis en train de dire, comprenez pas que la transition du milieu de vie, c'est nécessairement la rupture. J'ai vu des personnes qui se rechoisissent. Au bout du compte, notre couple peut être le lieu, l'écrin, où il y a un vrai développement de ce que je suis en tant que personne.
Dans les dernières minutes qui nous restent, Christophe, il me semblait important de revenir sur la question justement de la dimension de la parentalité dans ce temps de transition du milieu de vie. Tu mettais l'accent sur le fait que c'est le moment de l'adolescence des enfants, du départ des enfants. Et moi, j'accompagne beaucoup de personnes dont c'est le moment où ils deviennent parents pour la première fois.
Mais
parce qu'on fait des enfants de plus en plus tard.
Mais oui, exactement, oui.
Du coup, ça m'a amené des questions en préparant l'épisode sur... Et finalement, Karine le disait tout à l'heure, la question du troisième enfant. Le lien finalement entre cette transition, ce processus d'individuation et peut-être l'émergence d'un désir d'enfant à ce moment-là.
Tu vois, moi je le vois souvent sur les hommes en fait. Hein, parce qu'à 50 ans, généralement une femme a une difficulté à pouvoir concevoir un enfant. Mais après un divorce et puis remariage et le désir d'avoir un enfant à 50 ans et tout. C'est vrai que, et je ne pourrais pas aller plus loin dans mon élaboration parce que c'est assez nouveau. À 50 ans, bien avancé quand même dans le processus d'individuation qui a ses propres exigences, ses propres règles, ses propres états d'esprit. Et on se retrouve avec un bébé dans les bras de un mois qui correspond à un temps de la vie où on est généralement autour de 25, 30 ans, 35 ans. Et c'est un petit peu boum, le choc des mondes. Et tu vois, ça c'est un terrain d'exploration pour l'avenir. Hein. C'est un temps d'élaboration psychique. Il n'y a pas encore de réponse claire parce que c'est en train de se passer, je dirais, dans notre société depuis peut-être une dizaine d'années. Et en fait, ça c'est vraiment intéressant. Et c'est là, tu vois, où il y a besoin d'une flexibilité psychique et souvent elle a besoin d'être accompagnée pour aider à faire un petit peu le tri dans tout ça, parce que c'est pas forcément simple. Je dis en aucune façon que ça se fait pas. Ça montre combien la psy, c'est tellement passionnant, parce que ça évolue aussi
permanent.
En fonction des sociétés qui bougent et de paramètres qui bougent. Mais pour conclure, le processus reste le même. C'est pas parce qu'une société bouge que structurellement le processus intérieur bouge, parce que c'est un processus humain.
Un immense merci, Christophe, pour tous tes
merci
éclairages. Tu sais, je recommande souvent des lectures à mes patients. Évidemment, on recommandera maintenant ou jamais.
Voilà.
La vie commence à 40 ans,
40
en tout cas.
Ans,
il peut
oui.
y avoir... Quand tu parlais tout à l'heure, j'entendais aussi l'urgence de certaines personnes.
Parfois, il y a une urgence.
Il n'y a plus de temps à perdre
pour
vivre pleinement.
D'où le maintenant ou jamais. Il y a un autre bouquin que j'ai vu qui vient de sortir, qui s'appelle exactement Maintenant ou jamais. Ce n'est pas le même. Hein, c'est écrit par une dame. Là, moi, je suis un garçon. Et c'est chez Albin Michel. Et puis, si vous voulez bien, parce que le livre S'aimer enfin, il est au livre de poche. C'est vraiment le décliné perso. Parce que pour vous raconter le truc hein, en deux minutes, moi j'ai vraiment été loin. À ma transition du milieu de vie, je suis parti dans un monastère bouddhiste tibétain et pendant 2 ans, je suis devenu moine tibétain. Le gars qui pète un câble. Et après, je suis revenu. On peut aller quand même loin là-dedans. Et c'est ce truc-là que je raconte. Et c'est pour ça que parce que j'ai vécu ça, je me dis, mais au bout du compte, si moi je vis un truc comme ça, les gens doivent le vivre. C'est là où j'ai découvert en profondeur les enseignements de Carl Jung sur le processus d'individuation et que j'ai écrit ce livre Maintenant ou Jamais pour que chacun puisse s'approprier cette connaissance ô combien précieuse.
Que je recommande, qui va vraiment m'appassionner. Encore un immense merci,
merci à toi.
Christophe Fauré, pour vraiment voilà, tout ce que tu as partagé avec nous. Je rappelle que tu es psychiatre, que tu exerces en libéral à Paris. Et en effet, on peut retrouver aussi toutes tes activités et puis plein d'informations sur ton site internet christophefort.com. Voilà, avec tous tes ouvrages, toutes les références, on trouve tout.
Et sur YouTube, il y a plusieurs conférences également.
Tout à fait. Merci beaucoup, Christophe.
Merci.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.